Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. En ce mois de novembre, nous continuons notre découverte des métiers liés à l'éducation nationale, avec cette fois-ci le métier d'inspecteur académique, inspecteur pédagogique régional, autrement appelé IA-IPR. À ne pas confondre avec le métier d'inspecteur de l'éducation nationale qui suit les enseignants du premier degré. Tu entendras d'ailleurs au cours de cet épisode que je pose une première question concernant les IEN à mon invité qui me corrigera. C'est tout simplement car j'ai sauté une question sur ma fiche. Interviewer une personne à distance est moins aisé que lors d'une interview physique, malheureusement. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une bonne écoute. Donc Madame Cellier, bonjour.
Bonjour Madame Girard.
Vous êtes donc IA-IPR à l'Académie d'Orléans-Tours depuis 2 ans, et avant vous étiez à l'Académie d'Aix-Marseille, c'est ça?
Oui, absolument.
Et avant cela, vous étiez enseignante en lettres classiques?
Oui, j'étais enseignante de lettres classiques en collège, en lycée et puis en classe préparatoire aux grandes écoles.
Ok. Donc pour débuter cette interview, j'aimerais savoir en premier lieu quelle formation vous avez suivie et ce que vous avez appris lors de vos études, donc vos études pour devenir enseignant.
Alors, j'ai tout d'abord, après mon baccalauréat scientifique, j'ai suivi 2 années de cursus en classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, une licence de lettres à la Sorbonne. Ensuite, à mon époque, ça s'appelait maîtrise, donc c'est l'équivalent d'un master 1 de recherche en littérature à la Sorbonne aussi. Puis, j'ai passé l'agrégation de lettres classiques. Après cela, donc, j'ai entamé mon parcours d'enseignante. Et puis, parallèlement, j'ai soutenu ce qu'on appelait un DEA, de mon temps, diplôme d'études approfondies, qui équivaut à un master 2. Et ensuite, une thèse.
Ok.
Voilà. Et donc, ce que j'ai appris, ça a permis, par rapport à mon métier, hein, peut-être que vous posez aussi cette question, ça m'a permis de nourrir, d'asseoir déjà mes connaissances disciplinaires, donc d'avoir vraiment une solidité scientifique qui est essentielle quand on est face aux élèves et d'autant plus quand on est au contact régulier avec des enseignants. Et puis, cela m'a appris aussi à travailler en interdisciplinarité, puisque finalement, en lettres classiques, nous sommes amenés à porter notre regard sur d'autres disciplines. C'était un enrichissement permanent.
Et qu'est-ce qui vous a poussé justement dans cette réorientation professionnelle pour devenir IA-IPR?
Alors, à un moment de ma carrière, donc après 20 ans d'enseignement à peu près, j'ai eu envie en fait de porter mon expertise au-delà de la classe et donc de pouvoir davantage être au contact au niveau académique en fait, de l'enseignement, de pouvoir contribuer à la définition des enjeux au niveau académique davantage qu'au niveau simplement local, même si dans l'académie, voilà, on agit aussi localement, évidemment.
Est-ce que c'est une envie qui est venue avec le temps ou c'est une rencontre, par exemple, avec un autre inspecteur d'académie?
Alors, pour beaucoup de mes collègues, c'est une rencontre avec un autre inspecteur d'académie. Donc, moi, je tranche un petit peu, si vous voulez, puisque ça n'a pas été mon cas. En revanche, c'est la rencontre avec un chef d'établissement qui a évoqué devant moi cette possible évolution professionnelle et qui m'a un petit peu quand même guidée ou incitée à creuser en ce sens. Et ensuite, j'ai contacté donc de moi-même, je sortais de classe prépa à ce moment-là, enfin d'ancienne prépa, j'ai contacté les inspecteurs d'académie d'Orléans-Tours qui ont été d'un immense soutien puisque là, ils m'ont vraiment aidée à l'étrier, proposer des missions pour me faire découvrir le métier. Donc, ça a été évidemment essentiel, mais de moi-même, en fait, je n'y aurais pas pensé.
D'accord. Donc, pour devenir inspecteur d'éducation nationale, par contre, il faut passer un concours. Est-ce que c'est la seule voie d'accès?
Non, il y a différentes voies. Donc, effectivement, la voie principale est celle d'un concours qui est ouvert aux agrégés, qui comporte un écrit et qui est sous forme de dossier, suivi quand on est admissible d'un oral. Mais sinon, on peut devenir IA-IPR par voie de détachement, enfin un dossier parallèle. Et puis, on peut exercer ce type de fonction tout en ne rentrant pas dans le corps, en n'ayant pas ce statut à ce moment-là, on est ce que l'on appelle faisant fonction. Donc, on reste enseignant, par exemple, et on est faisant fonction pour un an, pour 2 ans. Et puis, on voit si on veut passer le concours ou pas.
D'accord. Et est-ce que c'est un concours qui est particulièrement attractif?
Alors, c'est un concours attractif dans le sens où il y a toujours un ratio quand même admis-postulant qui est relativement faible. Donc, il y a beaucoup plus de candidats qu'il n'y a d'admis. Voilà. Il n'y a pas énormément d'IAPR. Donc, nécessairement, le vivier se trouve restreint du fait qu'il y a assez peu de postes proposés. Bon, en lettres, depuis quelques années, là, il y a une dizaine de postes proposés par année. Mais il fut un temps, il n'y en avait que 5. Vous voyez, tous les ans, il y a quand même peu de postes. Donc, peut-être aussi que cela explique qu'il n'y ait pas tant de candidats que cela, mais par rapport au nombre de postes proposés, il y a quand même beaucoup de candidats. Et c'est quand même une fonction qui attire au sens où nous, enfin moi maintenant, je crois souvent des enseignants qui y pensent comme poursuite professionnelle. Donc, ça, c'est donc le signe que c'est quand même, ça revêt un certain attrait.
Et en quoi consiste concrètement ce métier ?
Alors, en beaucoup de choses. En beaucoup de choses, je dirais que ce qui le caractérise le plus, c'est la capacité à faire du lien, à créer du lien et à accompagner les enseignants. Donc, créer du lien sur le terrain, avec les enseignants, avec les chefs d'établissement, avec les recteurs, avec les inspecteurs généraux, pour que tout cela ruisselle, bien sûr, vers les élèves et vers l'enseignement.
Donc, c'est peut-être aussi pour cela que c'est intéressant justement d'avoir été enseignant avant.
Oui, effectivement, alors c'est possible quand même, mais c'est plus difficile déjà parce que quand on a été enseignant, on connaît les réalités du métier, on en connaît aussi ses difficultés. Oui. Voilà. Et nous savons que le métier d'enseignant est un métier difficile, un métier exigeant, que les enseignants rencontrent au fil de leur carrière des doutes que l'on a pu parfois partager, des questionnements, en tout cas professionnels. Et quand on l'a exercé soi-même, on les comprend a priori d'autant mieux puisqu'on les a en effet éprouvés. Donc il y a tout un volet, si vous voulez, accompagnement. Il y a quand même un volet également ressources humaines. Mmh. On accompagne justement les enseignants. Et puis, il y a un volet académique, puisqu'on dit bien IAIPR, donc inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, parce que là, je vous ai plutôt parlé du côté disciplinaire. Mais il y a tout un côté académique, où là, on peut se voir confier des missions transversales qui vont rayonner dans toute l'académie. Ça peut être sur les valeurs de la République, ça peut être sur l'égalité filles-garçons, ça peut être sur l'innovation, sur le numérique, il y a plein de possibilités.
D'accord, donc c'est vraiment un métier où il faut être au courant donc, de beaucoup de choses, des nouveautés, il faut être un peu partout à la fois et avoir faut être un couteau suisse tout simplement.
Ah mais vous le résumez bien.
Justement, donc, dans cette capacité à créer du lien, j'ai eu l'occasion donc, de rencontrer certains professeurs qui m'ont dit que pour eux, souvent les inspecteurs étaient assez détachés de la réalité du terrain, de la réalité en classe, etc. Ce que je trouve assez étonnant compte tenu de ce que vous me dites. Comment vous pouvez répondre à ça, justifier cette impression qu'ont les professeurs ?
Alors, je pense qu'elle est due au fait que, comme nous sommes des couteaux suisses, pour reprendre vos termes, nous devons être partout. Mais nous n'avons pas d'ambiguïté, hélas. Nous pouvons être partout à la fois. Et c'est sans doute cela qui peut donner cette impression, parce que l'académie dans l'entour est très vaste. En définitive, nous ne sommes pas très nombreux dans l'académie. Donc, nous avons en charge un territoire, si vous voulez, un nombre d'enseignants assez conséquent. Et donc, et bien sûr, il y a certains enseignants qu'on va voir en fait, souvent, certaines équipes qu'on va voir souvent, et d'autres peuvent avoir l'impression qu'en fait, on ne les voit pas. Mmh. Bon, malgré tout, je pense que le métier est en cours d'évolution, que fut un temps, peut-être il y a 10 ans, on pouvait avoir l'impression, en tant qu'enseignant, que l'inspection pédagogique régionale était éloignée du terrain. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Hein. On est vraiment... inciter, bon, moi c'est ma conviction hein, que nous devons être sur le terrain de toute façon, quoi qu'il en soit, mais voilà, ça fait partie de nos missions d'être sur le terrain, donc on est en permanence sur les routes et on est en permanence en train de rencontrer des enseignants. Vous voyez, l'année dernière par exemple, nous avons vu tous les enseignants de collège de l'Académie dans le cadre de la réforme du choc des savoirs et nous avons vu tous les enseignants de lycée dans le cadre de la préparation aux EAF. Donc malgré tout, ils ont eu un contact à chaque fois et puis ils savent, mais après, il faut franchir le pas. On leur dit qu'ils peuvent toujours nous écrire, ils peuvent nous téléphoner, ils peuvent demander à ce que l'on vienne. Mais nous concevons évidemment que peut-être pour eux, le faire est une autre démarche qui n'est pas encore tout à fait rentrée dans leurs habitudes.
Alors juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas habitués au jargon de l'éducation nationale, est-ce que vous pouvez juste expliquer ce qu'est un EAF ?
Alors les EAF sont les épreuves anticipées de français. Voilà. D'accord. Donc dans le cas de la préparation au baccalauréat donc de français, nous avons rencontré tous les enseignants de l'aide de l'Académie.
Ok. Et est-ce que vous avez donc un supérieur hiérarchique direct, comme le recteur par exemple ?
Oui, alors très clairement, nous sommes sous les ordres du recteur.
D'accord.
Ouais, notre supérieur, c'est le recteur. Nous dépendons du recteur, il nous donne nos missions. La lettre de mission que nous suivons est signée de la main de M. le recteur.
Ok, vous pouvez nous en dire plus sur la lettre de mission ?
Alors, les lettres de mission sont définies normalement conjointement avec l'intéressé, donc l'inspecteur d'académie, qui propose hein, d'ailleurs généralement des axes, des pistes sur ce qui lui semble le plus important pour répondre en fait au projet académique, puisque vous savez sans doute que chaque académie a un projet académique, de la même façon que chaque établissement a un projet d'établissement. L'académie définit des axes de travail pour une durée de 4 ans. Donc là, le projet académique est tout neuf, hein, il date de 2024. Donc c'est le projet académique pour 2024-2028 que vous pouvez trouver d'ailleurs en ligne. Et nous définissons nos actions en fonction aussi de ce projet académique, puisque dans nos missions fait également partie celle de conseil. Donc on doit pouvoir être conseiller, être force de proposition auprès du recteur ou de la rectrice en fonction des académies. Et dans le cadre des projets académiques, on regarde ce que nous pourrions proposer pour répondre aux attentes du recteur. Ça peut apparaître dans les lettres de mission.
D'accord. Donc sur le site de l'Éducation nationale, donc j'ai noté qu'il est écrit que les IUN veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministère chargé de l'éducation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette citation ?
Alors je peux déjà vous dire que là vous mentionnez les IEN, donc ce sont les inspecteurs de l'Éducation nationale, parce que les IEN sont les inspecteurs du premier degré et ils n'ont pas tout à fait le même rôle, la même fonction que les IAIPR. Pour vous en donner quelque chose de frappant qui va marquer un peu les esprits, ça ne se limite pas à cela, hein, les différences, mais les enseignants du premier degré sont évalués par les IEN, qui sont leurs supérieurs hiérarchiques. Dans le cadre du second degré, le supérieur hiérarchique de l'enseignant, c'est le chef d'établissement, ce n'est pas l'IAIPR.
Ok.
Donc ça, c'est une différence qui est vraiment notable, parce que nous ne sommes pas du tout les supérieurs hiérarchiques des enseignants, même s'ils nous perçoivent un peu comme cela, mais voilà, dans les textes, c'est absolument pas... Alors après, si je ferme cette parenthèse sur les IEN, oui, les politiques éducatives sont un peu les relais, si vous voulez, des politiques décidées de façon ministérielle. Mais, parce que tel que lu comme ça, on pourrait se dire que nous sommes juste des exécutants. Déjà, comme tout fonctionnaire, hein, nous sommes là comme tout fonctionnaire, les enseignants aussi, pour effectivement appliquer les décisions prises au niveau du ministère. Mais ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que le ministère, dans la plupart des cas, et de toute façon, en règle générale, demande l'avis du terrain. Alors après, le ministre ou la ministre fait ses arbitrages qui lui sont évidemment propres et cela est dévolu à sa fonction, à son statut. Mais généralement, il consulte les IAIPR, il consulte le terrain, de la même façon qu'ils consultent les enseignants. Donc en réalité, se faire le relais des politiques ministérielles est tout à fait logique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que le ministère définit sa politique, par exemple la réforme du choc des savoirs ou la réforme du lycée, que certains d'entre vous, peut-être certains qui nous écoutent, ont éprouvé en tant qu'élèves, peut-être. Et ensuite, nous la déclinons dans l'académie. Donc, on s'adapte en fait aux réalités du terrain. On essaie de la faire comprendre, on essaie d'en montrer en fait les enjeux, les tenants et les aboutissants, le bien fondé. Et puis, on adapte. C'est un petit peu l'idée de la lettre et de l'esprit. Hein. Voilà, il y a la lettre avec ce qui est posé de façon ministérielle. Et puis, nous, on la décline parce qu'on va suivre l'esprit, en fait, par exemple, d'une réforme.
Alors, vous avez dépassé un petit peu sur mes deux prochaines questions. Je voulais justement venir à travers celle-ci à la différence avec les IEN et les IAIPR. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ?
Oui, donc je vous ai donné la différence principale. Oui. Après, du point de vue simplement de l'application, mais les IEN du premier degré ont en charge une circonscription. Donc, localement, si vous voulez, c'est plus restreint. Hein, ça peut être un bassin autour de plusieurs écoles, voilà. Alors que l'IAIPR a en charge souvent des zones territoriales propres. Parfois, ça va être toute l'académie en fonction du dossier qu'ils suivent. Par exemple, moi qui suis les lettres classiques, je suis avec un de mes collègues l'ensemble des lettres classiques sur toute l'académie. Mais pour le français, nous nous sommes partagés les départements. Moi, je suis par exemple le Réloir. Voilà. Vous voyez, l'IEN a une circonscription plus restreinte et puis il n'a donc pas du tout le même rapport avec les enseignants. Voilà. Après, nous avons en revanche en commun l'idée d'accompagnement et de travail de ressources humaines. Ce qui est très important de comprendre, c'est que même s'il y a des différences, nous sommes obligés de travailler main dans la main. Parce qu'il y a quand même des points sur lesquels nous nous retrouvons, notamment le travail sur le cycle 3. Et par exemple, des plans comme le plan français ou le plan mathématique nous réunit, puisque là, on travaille conjointement, professeur des écoles, professeur du second degré, pour faire progresser les élèves, et donc IEN avec IAIPR.
Ok. Et comment se déroule l'inspection d'un enseignant du second degré ?
Alors, il y a différents types, en fait, d'inspection. Il y a celles qui rentrent dans le cadre de ce que l'on appelle maintenant le parcours personnalisé de carrière et de rémunération qui se décline sous la forme de trois rendez-vous de carrière. Un à l'échelon 6, un à l'échelon 8, un à l'échelon 9. Donc là, nous avons un rendez-vous avec l'enseignant. On va le voir en cours et ensuite nous avons une heure d'entretien. Alors pas seulement pour parler de son cours, mais pour parler de l'ensemble en fait, de ses pratiques, l'ensemble de sa carrière. En dehors de cela, il y a ce que l'on appelle les visites d'observation ou les visites conseil, qui sont également très fréquentes, que l'on peut faire soit à la demande des enseignants, ça m'est arrivé encore pas plus tard qu'hier après-midi, soit que l'on décide de faire parce qu'on est intéressé par certaines pratiques, on veut simplement les observer pour pouvoir échanger avec des enseignants, soit parce qu'on constate que ça fait 15 ans qu'un enseignant n'a pas vu un inspecteur, donc je dis que peut-être, voilà... se rapprocher de lui pour évoquer ses perspectives de carrière, peut-être une bonne chose. Vous voyez, il y a différents types, en fait, de visites, d'inspections.
Et ces inspections se font-elles sur l'entièreté de la carrière du professionnel ou elles prennent fin avant ?
Alors, justement, mais ça, c'est en discussion avec l'inspection générale. Pour l'instant, les rendez-vous de carrière sont positionnés au 6e, 8e et 9e échelon. Donc, le dernier rendez-vous de carrière est censé intervenir quand l'enseignant a à peu près une quarantaine d'années, s'il a commencé sa carrière à 25 ans à peu près, hein, voilà, environ, hein, si vous voulez, il y a à la moitié de sa carrière. Et donc, c'est un problème soulevé par l'inspection générale qui voudrait justement qu'il y ait une étendue plus vaste. Bon, l'idée derrière, c'est qu'à la fin du dernier rendez-vous de carrière, on puisse évoquer justement des perspectives professionnelles avec les enseignants qui peut-être voudraient se reconvertir ou voir des opportunités différentes. Mais en fait, il faut essayer de venir entre le dernier rendez-vous de carrière et la fin de la carrière du professeur, il faut essayer de venir au moins une fois, à minima, et ça peut être au moment où l'enseignant est susceptible de passer la classe exceptionnelle. Donc là, c'est quand l'enseignant a généralement, hein, en tout cas général, une cinquantaine d'années.
Donc vous avez aussi une fonction RH, vous participez donc au recrutement et à la formation des professionnels, c'est ça ?
Oui, nous participons à la formation continue, la formation initiale des professeurs, et au recrutement. Donc, par exemple, en étant jury de concours. Donc, dans mon cas, je suis jury d'ESS interne et externe, par exemple. Voilà. Et nous sommes jury de concours pour une durée de 4 ans. Après, nous cédons notre place, une sorte de roulement, si vous voulez. Et dans ces jurys, il y a des IAIPR, mais il y a aussi des universitaires, il y a des enseignants, parfois, voilà, des enseignants formateurs. Ce qui fait que finalement, dans les jurys, il y a de la pluridisciplinarité, il y a des échanges de pratiques, des échanges de regards. Et c'est ce qui fait que ces concours ont leur statut aussi reconnu qu'à présent.
Et est-ce que vous pouvez, en tant qu'IAIPR, essayer de jouer justement sur la pénurie de professeurs au sein de l'éducation nationale en tentant donc de. Je sais pas, je n'ai pas vraiment d'idée, mais de pallier à travers le concours ou par exemple des recrutements de professionnels externes qui aimeraient devenir professeurs au sein de l'éducation nationale?
Alors, sur les contractuels, le recrutement de contractuels,
Oui.
effectivement, nous avons une petite marge de manœuvre dans la mesure où on définit de concert avec les services, parce que ce qui est très important aussi, et je n'ai peut-être pas assez insisté sur ce point, c'est de comprendre que je vous parlais de lien tout à l'heure. On fait le lien aussi avec les services du rectorat. Donc, l'IAIPR ne peut rien tout seul, hein, ça c'est une
Oui.
certitude. Voilà, il faut toujours que les services soit d'accord pour rentrer dans telle ou telle dynamique. Donc là, par exemple, pour le recrutement des contractuels, il faut que le service de la division des personnels enseignants, donc qu'on appelle la DPE, soit d'accord, qu'on se consulte ensemble, qu'on ait des groupes de travail, par exemple, pour définir des fiches de poste. Voilà ce qui s'est passé cette année. On définit des fiches de poste, puis parfois on peut élargir justement notre recrutement et voir si certaines personnes qui avaient candidaté peut-être sur de la philosophie, mais qui n'ont pas trouvé, seraient intéressées peut-être, pourquoi pas, pour enseigner de façon très ponctuelle les lettres. Mais évidemment, tout ça est soumis à entretien et à validation de notre part,
Oui.
bien entendu. Mais sur l'élargissement, si vous voulez, du vivier, c'est une possibilité pour essayer en fait de trouver les cibles qui sinon n'y penseraient pas. Voilà, aller chercher des personnes qui peut-être n'y penseraient pas. Après, pour le concours lui-même, là, c'est bien sûr, c'est national, hein, donc ça, ce n'est pas du tout notre ressort que de décider quoi ou qu'est-ce sur recrutement ou sur les modalités du concours au niveau national, même si on peut bien entendu nous demander occasionnellement notre avis.
Donc, vu que vous devez justement donc occuper une fonction de RH, vous devez mobiliser des compétences sociales qui sont autres que celles mobilisées en cours face à des élèves. Comment est-ce que vous avez réussi à vous former sur cet aspect?
Alors, nous avons, quand nous sommes stagiaires IAIPR, nous avons beaucoup de formations. Nous avons des formations qui sont assurées régulièrement. On a deux fois, trois fois, pardon, une semaine de formation, plus des nationalement, plus des formations régulières une fois par semaine en académie. Et on nous forme beaucoup sur ce point. Donc ça, c'est un premier volet, si vous voulez, c'est un premier versant. Et ensuite, dans le recrutement lui-même, en fait, déjà le fait d'être recruté, dans l'entretien, dans le concours lui-même des pairs, on mesure si on est en capacité d'avoir l'écoute nécessaire pour justement savoir accompagner et avoir ces compétences RH que l'on va développer ensuite dans notre professionnalité. Mais qu'on les a déjà potentiellement, voilà, en germe, mais qu'on les a déjà travaillés, même si c'est avec les élèves, mais qu'on les a quand même déjà travaillés dans les rapports qu'on en a pu entretenir avec le chef d'établissement, en tant que formateur, voilà.
Vous nous avez parlé plutôt donc de la mise en place des groupes de niveau. Est-ce que celle-ci, elle joue sur votre travail?
Alors, je pense que vous voulez parler de groupe de besoin.
Oui, pardon, groupe de besoin.
Donc, comme toute réforme, en fait, il y a eu évidemment une incidente dans la mesure où la réforme se prépare. Comme je vous l'ai dit, nous avons rencontré tous les collèges de l'académie. Donc, nous avons dû bouleverser notre agenda pour chacun prendre en charge toutes ces réunions, pour proposer des ressources, les préparer, pour se concerter, pour savoir comment nous allions agir et comment nous allions suivre cette réforme. Mais si vous voulez, ça fait partie en fait de notre métier. Voilà. Être capable de s'adapter à toutes les nouveautés fait partie de notre métier. Donc on nous demande vraiment d'être réactif et d'être capable de s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut en permanence hiérarchiser ce qu'il nous faut faire et redéfinir les priorités. Donc, je ne veux pas dire que ça a été bouleversé, parce que ça fait partie intégrante, en fait, de notre travail. Mais oui, évidemment, que ça a été notre point. Ça avait d'ailleurs été demandé par la ministre à ce moment-là d'en faire notre priorité.
Existe-t-il une journée type dans votre métier ou quelque chose qui s'en rapproche ?
Alors, il n'y a pas vraiment de journée type parce que justement, on est tout le temps soumis à l'imprévu. Mais si je devais quand même essayer de vous résumer un petit peu les choses, ça commence par la consultation des courriels et ça va finir par la consultation des courriels. Consultation et réponse. Hein, voilà. Et évidemment, ça n'empêche pas au cours de la journée de les consulter et d'y répondre aussi, bien entendu. Mais ça, c'est début de journée, fin de journée, c'est un impondérable. Et ensuite, voilà, globalement, vous avez un temps, voilà, c'est évidemment c'est très schématique, mais sur le terrain, donc par exemple, visite d'enseignants, rencontre d'équipe, et un autre temps, bon, par exemple, ça va être le matin, et un autre temps où vous allez avoir des réunions, soit avec d'autres IAIPR, soit avec votre équipe d'IAIPR de l'aide, soit avec les services, voilà, pour résumer à peu près.
Et qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ? Est-ce que votre métier d'enseignant ne vous manque pas ?
Alors, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse le plus, alors, il y a deux choses. Il y a le contact avec les enseignants, ça sans aucun doute. C'est-à-dire échanger avec les enseignants, c'est ce qui est le plus intéressant, pouvoir leur parler, essayer de les comprendre et leur apporter à notre petite échelle des réponses. Et puis, il y a un autre volet qui est aussi très intéressant, c'est de pouvoir expérimenter ou proposer des idées que l'on pense pouvoir, ou en tout cas qu'on aimerait voir changer un petit peu la donne. Je pense par exemple aux langues anciennes, là en l'occurrence. On essaie, voilà, on cherche, on va essayer dans l'académie de mettre en place certaines choses en disant que peut-être on va essayer de faire évoluer un petit peu, hein, il n'y a jamais de baguette magique de toute façon, de faire un petit peu évoluer la situation. Donc ça, ce sont les deux aspects qui nous passionnent le plus. Les élèves, on les voit à travers les enseignants, c'est-à-dire qu'on parle toujours des élèves. Et s'il y a quelque chose qui me manque, c'est de ne plus faire de cours vraiment disciplinaires. Voilà. Donc ça, mais je suis encore, malgré mon âge avancé, une jeune IAIPR. Donc j'attends d'avoir pris un peu plus d'habitude, si vous voulez, dans la profession, pour pouvoir ensuite également, à côté ou en plus, poursuivre des activités de recherche dans ma discipline. Voilà, parce que ça, c'est ce qui me manquerait le plus.
A contrario, quels sont les points négatifs du métier ? Est-ce qu'il y a des contraintes auxquelles vous devez faire face et auxquelles vous n'étiez pas préparé lorsque vous avez commencé ?
Alors, sans doute que ce qui est le plus difficile à certains moments de l'année, c'est de devoir faire face à des injonctions permanentes. Donc, comme je vous disais, les courriels qui pleuvent, voilà. Et il y a un moment où il peut y avoir une certaine, et c'est là où il faut savoir être vigilant, un certain épuisement, si vous voulez, une grande fatigue qui pourrait nous faire faire des bêtises parce qu'on va répondre trop vite. Parce que voilà, on n'arrive pas finalement, on a casé un rendez-vous, je pense au nôtre, en l'occurrence Madame Girard, on a casé un rendez-vous, finalement on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir l'honorer, donc on les décale, voilà. Ça c'est toujours en permanence de devoir faire tellement de choses et de ne pas avoir finalement assez de temps. Et puis apprendre la gestion justement des courriels pour prioriser, apprendre à prioriser en fait. Ce qui est véritablement urgent. Et l'urgence, ce n'est pas forcément ce à quoi il faut répondre immédiatement. C'est garder une hauteur de vue pour traiter les problèmes qui sont justement académiques, sinon nationaux d'ailleurs.
Avez-vous vécu une situation difficile qui vous a fait remettre en question vos pratiques professionnelles ?
Je pense qu'on en On en rencontre toujours. Maintenant, je n'ai pas souvenir d'un événement particulier. En revanche, je peux vous dire que justement, du fait de tout ce qu'il faut traiter en même temps, il m'arrive de faire des oublis. Voilà. Et ça, à chaque fois, on se dit, c'est plutôt un signal d'alarme ou d'alerte, plutôt que de remettre en question les pratiques, c'est de se dire, oh, je suis trop fatiguée, en fait, et je ne me rends pas compte, donc je ne sais plus les choses tout à fait correctement. On oublie de mettre une pièce jointe. On oublie de relire un courriel, voilà, on se trompe d'une date. Et donc ça, c'est garder cette vigilance-là, parce qu'on est toujours en train de faire les choses un peu trop rapidement, un peu trop dans l'immédiateté, et c'est savoir toujours prendre ce temps de recul qui est absolument nécessaire.
Et quelles sont les perspectives d'évolution?
Alors, les perspectives d'évolution sont assez nombreuses finalement, parce qu'on peut devenir, on peut intégrer un autre corps de l'administration, on peut partir à la DGESCO, enfin on peut, hein, évidemment, tout ça est soumis à la moulinette des nominations, mais en tout cas on peut postuler, hein, on peut postuler pour être IG, on peut postuler pour être DAZEN, voilà, pour avoir une mission. Particulière d'expertise auprès du recteur, pour être par exemple CARDI, voilà, ceux qui sont en charge de la recherche et de l'innovation. Voilà, il y a plusieurs perspectives d'évolution professionnelle.
Alors, DAZEN, il faut développer pour les gens qui ne sont pas du tout du milieu.
Alors, le DAZEN, c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale au niveau départemental. Voilà. Donc, dans le département, vous avez, dans chaque département, là, de l'Académie d'Orléans-Tours, vous avez un DAZEN qui est parfois, d'ailleurs, accompagné par un DAZEN adjoint, pas toujours, mais parfois. Et le DAZEN pilote la politique du recteur au niveau du département.
Pour clore cette interview, j'ai une toute dernière question. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir à nous faire partager en lien avec votre métier?
Alors, en lien avec le métier d'IAIPR, j'ai juste un bon souvenir, mais vous voyez, ça ne fait pas très longtemps que je suis IAIPR. Donc, mais bien, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Quand je suis partie de l'Académie d'Aix-Marseille, où je faisais mon stage d'IAIPR, j'avais gardé un contact là-bas, enfin une collègue qui est restée une amie d'ailleurs, et qui avait recroisé après mon départ un chef d'établissement qui lui avait dit à quel point il regrettait mon départ et que j'étais géniale parce que j'avais dynamisé ses équipes. Voilà, ça m'avait fait très plaisir. Voilà, juste un petit souvenir.
Ça fait toujours plaisir d'entendre des choses comme ça en même temps.
Oui, tout à fait.
Eh bien écoutez, Madame Cellier, je vous remercie pour cette interview. Ça a été un plaisir de vous entendre et c'était vraiment extrêmement intéressant.
Merci à vous, Madame Jarre, et merci pour cette belle initiative.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt!